Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alors, est-ce que vous pouvez me dicter le numéro de téléphone? 07 50.
Ah, c'est elle qui rappelle. Bah, je peux essayer de. Mais j'ai aucun résultat, donc je ne sais pas comment je peux l'appeler.
Allô?
Bonjour, c'est Thomas Rozek de Binge Audio.
Binge.
Vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien déjà, pour commencer? Est-ce que vous avez compris ce que c'est le Brexit?
Bah alors ça c'est très compliqué.
Pour l'instant ça reste très vague.
Oui, c'est...
Est-ce que je comprends tout? Non.
Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis un peu plus de 2 ans, depuis le 23 juin 2016 précisément, je sais pas pour vous, mais moi je suis paumé. Paumé à cause du Brexit. Alors non pas que j'ai pas saisi le résultat du vote, à savoir la décision des Britanniques de quitter l'Union Européenne, ça c'est quand même à peu près clair, mais plutôt que j'ai un mal fou à suivre l'après, la concrétisation de ce départ, qui non seulement prend un temps infini, mais en plus nous plonge dans toute la savante complexité des imbrications européennes. Alors on a eu une idée assez simple finalement, fouiller dans nos contacts et passer quelques coups de téléphone à des Anglais pour qu'ils nous expliquent un peu quel est le fuck, si je puis me permettre. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et d'ailleurs, est-ce que même comprennent bien ce qu'est le Brexit? Ce sera notre point de départ. Et c'est la question que nous avons posée à Catherine, Molly, Katie, Seymour et Suzanne, nos 5 sujets britanniques du jour. La première à répondre, c'est Katie.
Alors, en général, oui. J'ai bien compris qu'il s'agit d'une sortie de l'Union européenne, mais à ce stade, on ne sait pas du tout ce que ça représente. On est encore en attente sur les détails. Donc, pour l'instant, ça reste très vague. J'avoue que je n'ai pas compris grand-chose parce que sortir de l'Union européenne, c'est une question tellement vaste qu'il y a tellement de petites choses à gérer, j'ai l'impression. Et du coup, comme rien n'a encore été décidé, ça pourrait soit être très dramatique, soit quelque chose qui ne change pas grand-chose pour nous au quotidien. J'avoue que pour nous, enfin pour moi, en tant que citoyenne britannique, ça reste encore très très flou. Ça pourrait être énorme ou ça pourrait être beaucoup plus subtil qu'on ne le pense.
Même question à Molly qui partage l'incertitude de Katie.
Moi, je vis un peu dans le déni. Je me dis qu'en fait, Brexit, ça n'existe pas, mais ce n'est pas vrai. Où on est en ce moment, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et je pense même il y a 2 ans, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner et on n'a pas vraiment truc derrière. Ça veut dire que moi, qui habite en France, peut-être ça va beaucoup changer des choses pour moi ou peut-être ça ne va rien changer pour moi. Ça fait 2 ans, je ne connais rien. Moi, je suis anglaise, hein. Je comprends ce qu'ils disent. Je comprends ce qu'il y a sur le télé et tout ça. Mais même si je comprends le mot, je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Il y a tellement de choses, c'est tellement dans le flou. Chaque fois, parce que là, en France, tout le monde me parle de ça. « Ah ben, vous êtes anglaise, du coup, ça veut dire quoi, Brexit, pour vous et tout ?» Je suis là, genre, « Mais en fait, j'en sais rien, en fait. »
Bon, alors allons plus loin. Peut-être que si ni eux ni nous n'y comprenons rien, c'est parce que les termes de ce départ de l'UE ont beaucoup changé. C'est en tout cas ce que pense Catherine, écoutez.
Le Brexit qu'on a maintenant, qu'on a actuellement, avec la l'accord que Theresa May a dévoilé la semaine dernière, c'est pas le Brexit qu'on pensait aller y avoir il y a 2 ans, je dirais.
Donc, il y a plusieurs Brexit en fait. C'est ça.
Il y a plusieurs Brexit.
Vous êtes en train de me dire, c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait.
Bah, justement, oui. Ceux qui ont voté pour Brexit, ce qu'on a maintenant, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, je vais dire.
Eux, ils voulaient quoi? Ils voulaient la fin de la coopération avec l'Union européenne.
Totalement. La sortie totale, c'est-à-dire le commerce, c'est-à-dire la phrase clé, disons, c'est le take back control. Donc, c'est prendre le contrôle, reprendre le contrôle d'Angleterre, enfin de Royaume-Uni. Et en fait, on ne fait pas ça. Avec l'accord que Theresa May a dévoilé, ce n'est pas du tout ça. On reste dans le marché unique. On a presque la même situation qu'avant, sauf le fait qu'on a perdu le contrôle. On a perdu le droit de voter.
Là, on entre dans le gros du sujet. La politique britannique totalement secouée, c'est Suzanne qui va nous le détailler, par ce vote du Brexit.
Ce n'était pas un pays de position politique extrême, ni à droite ni à gauche. Depuis très longtemps.
un pays qui faisait prenait des décisions entre un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, disant par-ci, disant par-là. Et soudain, une décision qui était politiquement mais radicale et qui a divisé complètement, qui a divisé des familles, qui a divisé des collègues, qui continue à diviser. Et effectivement, on ne comprend pas, encore même au niveau politique, au plus haut niveau politique, on a l'impression que les politiques eux-mêmes ne comprennent rien à ce qu'ils font. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Donc si même à ce niveau-là, on en est encore 2 ans plus tard à se dire, à comprendre réellement les ramifications, les conclusions de cette décision, effectivement, se dire à quoi va ressembler demain, mais ça peut être n'importe quoi. On n'en sait rien.
Au moins, c'est rassurant. Nous ne sommes pas seuls dans notre incompréhension. Et ça dénote sans doute d'un mal plus profond. C'est ce qu'a tenu à souligner Seymour.
Personne n'a vraiment compris exactement qu'est-ce que ça voulait dire exactement d'être parti de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on n'est pas très, très bien éduqués. Je ne connais même pas qui me représente en Europe, alors, par exemple. Et en plus... Quand on entre dans les détails, c'est clair que même les Brexiteers, ils n'ont pas un plan. Ils même savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire exactement. Par exemple, pour le trade, les opérations, tous les agreements, qu'ils soient économiques ou bien qu'ils soient politiques. Et l'énormément de travail qu'on a fait pendant les derniers 45 ans qu'on était dans l'Europe. C'est seulement dans les derniers 2 ans qu'on commence à l'apprécier. Et de ce mesure, peut-être, on va voir que c'était une bonne éducation pour tout le monde de le savoir. Et c'est clair que tout le monde a bien commencé à apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement changé de vue, parce que beaucoup des vues étaient émotionnelles, je dirais, et en espérant ce qui va se passer au futur.
La grande contradiction dans tout ça, et vous l'aurez compris comme moi, c'est qu'on peut avoir la sensation de ne rien comprendre d'un sujet et en être totalement obsédé. C'est le cas de nos 5 témoins du jour qui en parlent quotidiennement avec leurs proches, leurs collègues. Mais pour en dire quoi ?
Je ne sais pas si j'ai le droit de le jurer à la radio, mais on dit que, enfin, que c'est merdique, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Et pour nous, enfin, personnellement, ça m'effraie, parce que je ne sais pas ce qui va être l'impact sur moi et sur ma vie ici en France. Donc, pour nous, on se donne les conseils. Enfin, j'ai une amie qui doit se décider maintenant si elle va se paxer ou elle va se marier avec son copain, parce que peut-être ça va l'aider dans l'avenir, après qu'on n'est plus européen. Et c'est ça qui est effrayant, parce que rien n'est stable en ce moment. Donc oui, on a cet accord, mais ça doit passer encore via le Parlement européen et le Parlement en Angleterre. Et donc... on est toujours au début des négociations, en fait. Après 2 ans, on n'a presque rien fait. Et donc, rien n'est décidé, rien n'est stable. Pour les gens comme moi, les ressortissants britanniques en France ou en Europe, on ne sait pas ce que va être notre statut après tout ça, c'est terminé.
Chaque fois que je rentre en Angleterre, on en parle avec mes parents, mes amis qui habitent en Angleterre. Eux aussi, ils sont là, non, nous aussi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ma mère, elle n'arrête pas de dire, oh non, ça va pas arriver en fait. Parce que c'est vraiment un truc, tout le monde en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en boucle. On tourne en boucle, on dit des mêmes phrases, des mêmes choses, mais on parle pour rien dire, il n'y a rien.
On revient dessus tous les jours, on en entend parler tous les jours. Tous les jours, on se pose la question à savoir, est-ce que cette décision peut être remise en cause ? Est-il possible de remettre en cause une décision démocratique, soit, mais qui s'avère être très mauvaise politiquement et potentiellement économiquement aussi, sans pour autant remettre en compte l'unité du pays, par exemple ? C'est très difficile comme question. Et est-ce qu'il est possible également pour le Parlement anglais de dire « Attendez, je sais que ça fait 2 ans, mais est-ce qu'on pourrait avoir une minute pour réfléchir un peu plus longtemps ?» Parce que le gros problème, c'est ayant posé leur démission un peu trop tôt, les Anglais sont maintenant en train de se dire « Peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu plus longtemps. » Simplement, le problème, le processus légal ne leur permet pas de le faire.
Il y a des gens qui sont fatigués de tout ce qui se passe. Ils veulent, enfin... get on with life. Mais en même temps, c'est clair que c'est réel. Il y a des gens qui marchent. On avait presque 1 million de gens à Londres hein, qui ont fait la marche pour l'Europe. Et ça, c'est il y a 2-3 semaines à Londres. Alors, les émotions sont toujours là. C'est vraiment... c'est front of mind, ça veut dire absolument le plus important. C'est le sujet le plus important maintenant pour les gens, c'est clair.
Et vous croyez à la possibilité politique, j'entends, d'un second référendum, comme l'appel de leur vœu pas mal de gens sur place, notamment les gens qui ont marché pour l'Europe, vous en parliez.
Oui, c'est tout à fait une possibilité. C'est un peu ironique dans un système politique où on cède le contrôle pour les décisions à le Parlement, parce qu'ils ont le temps à penser à toutes ces choses, que le truc le plus compliqué qu'on n'a jamais eu à décider a été mis aux gens pour décider, bien que personne vraiment comprend exactement les conclusions que ça va se passer.
Alors ça va se passer, certes, mais qu'est-ce qui va se passer ? Quelles seront les conséquences concrètes pour les Britanniques, qu'ils soient sur place ou à l'étranger ? C'est justement ce qu'on a cherché à savoir, toujours auprès de nos 5 témoins.
Bah, ça fait 5 ans que j'habite en France, donc je sais qu'avec l'accord de Theresa May, ça veut dire que je vais avoir le droit de rester après le Brexit. Par contre, le droit de rester, ça veut pas dire forcément le droit de bouger entre les pays européens. Non, pour moi, moi j'ai un travail à Bruxelles. Enfin, c'est très facile pour moi. J'ai juste besoin de prendre un train à Gare du Nord. 2 heures plus tard, je suis au travail. Mais si après, j'ai pas le droit de traverser la frontière sans un visa ou quelque chose comme ça, enfin, pour moi, j'imagine que je vais perdre cet emploi parce que ça va devenir trop difficile pour mes employeurs, pour tous ces gens, si pour tous ces travailleurs transfrontaliers qui sont dans la même position, ça va devenir très difficile. Je ne vais plus avoir cet emploi en Belgique, j'imagine. Donc, il y a ça. Mais en plus, j'ai demandé la nationalité française parce que j'ai trouvé ça sage à faire au plus vite.
Sur le plan individualiste, j'ai bien peur que ça me crée des ennuis. En tant que citoyenne britannique qui habite en France, que ça m'a créé des ennuis un peu comme les Américains avec des visas, des soucis administratifs, rien de très grave, que voyager devient un peu plus compliqué.
Vous, en France, vous faites quoi, Cathy ?
Moi, je suis traductrice.
Et ça pourrait vous affecter de quelle manière dans votre boulot ? Ça pourrait vous empêcher de travailler, par exemple ?
Moi qui suis sur place, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Sur le plan administratif, je pense que c'est peu probable, mais ça reste une possibilité, je pense. Surtout pour les nouveaux entrants, ça pourrait créer plus d'ennuis. Mais par exemple, moi qui vais me marier à un Français, j'ai peur que pour lui, par exemple, si jamais on voulait retourner en Angleterre, dans le Royaume-Uni, que ce serait moins intéressant pour lui, qu'il y aurait moins de possibilités de travail pour un Français dans le Royaume-Uni.
Dans ma vie, moi, je crains surtout l'absence d'huile d'olive. Parce que je suis très égoïste, j'aime la cuisine et je crains de me retrouver avec ce qu'était la cuisine britannique, quand même la cuisine anglaise, si vous en avez le souvenir, probablement pas, vous êtes trop jeune, mais quand même, bon, c'était pas... il manquait d'ingrédients, dirons-nous. Et puis, un niveau culturel aussi, tout simplement. C'était quand même sympa de se dire qu'on était... Il y a quand même encore un tunnel, il y a un Eurostar qui va à Paris, à Bruxelles. On a accès quand même à... J'ai des enfants qui auraient aimé étudier en Europe de manière facile. Ce sera peut-être plus le cas pour eux. Et ça, c'est très triste.
Moi, je suis un intermittent du spectacle en France, un statut qui n'existe pas. Et vu que c'est lié avec le Pôle emploi, je me demande si je peux avoir plus de difficultés, plus de mal à avoir un visa s'il en faut un. Mais l'ambassade, ils ne peuvent pas vraiment nous dire ce qui se passe. Et ils disent juste, prenez un carte de séjour au cas où, faites ça, on ne sait pas, peut-être ça va aider. Ça reste complètement dans le flou. Ça fait peur.
Il y a des problèmes politiques dans le monde avec effectivement les dictateurs, bien qu'ils soient américains, qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois. Et il faut être une partie des unions fortes. Et si on n'est pas à la table, c'est qu'on est plus faible, surtout. Et ça, c'est d'abord. L'autre chose, c'est la grande question, c'est le climate change.
Le changement climatique.
Il faut être à la table hein, pour discuter. Et l'European Union, ça nous donne une occasion d'être à la table et de créer une force assez forte. Et je crois que l'Europe, c'est une force pour le bien.
C'est excitant en même temps, enfin, c'est une pièce de théâtre, c'est un drame. On ne sait pas ce qui va se passer dans le prochain épisode, vous voyez.
Le feuilleton du Brexit, voilà de quoi alimenter des dizaines de futurs épisodes, peut-être pas toutes les semaines quand même, mais on y songera. Et peut-être qu'on rappellera Katie, Seymour, Molly, Catherine et Suzanne, qu'on remercie chaleureusement d'avoir décroché leur téléphone pour Programme B, qui, je vous le rappelle, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, programmeb@binge.audio pour nous écrire, et à demain pour un nouvel épisode.
Yeah.